Bonjour à chacun, chacune. C'est sympa de voir des têtes connues. Merci de l'accueil ce matin qui était vraiment chaleureux. Et votre communauté est vraiment chaleureuse. Et c'est vrai que ça se sent. J'étais touchée encore. Et vous savez, ce matin, peut-être qu'il y aura encore des moments d'émotion dans mon cœur parce que je ne m'habitue pas à la grâce de Dieu. Et je trouve que c'est juste incroyable comme il a dirigé la louange dans le sens exact du partage que j'ai avec vous ce matin. Et déjà dimanche dernier, je disais, Seigneur, mais est-ce que tu penses que c'est juste? Je suis pas pasteur et je n'ai pas autant de facilité ni d'habitude de préparer des prédications. Et on se demande toujours, est-ce que c'est vraiment ta pensée ce matin? Parce que c'est vrai que vous allez voir le texte que j'utilise pour appuyer sur le partage que j'ai à faire au niveau des chrétiens persécutés. Je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est juste? Et il a confirmé ça par ce qu'a dit la dernière fois déjà, dimanche dernier, la femme qui animait la louange, et ce matin, c'est exactement dans le même sens. Je vous assure que Dieu est tellement incroyable. J'espère que vous êtes autant fascinés par moi, par Jésus, parce que il a vraiment fait des choses, et il fait des choses extraordinaires. Juste pour le petit détail, on revient du Vietnam, non pas pour un voyage de travail, pour une fois on s'est octroyé 15 jours de congé, mais on n'est jamais en congé avec Jésus. Et j'étais tellement triste de voir tous ces gens accomplir avec dévotion des actes à des statues, comme dit la parole, sans leur bouche ne parle pas, leurs yeux ne voient pas. Ils sont juste de bois, de pierre ou de pierres précieuses parfois ou d'objets précieux. Et ils viennent, ils touchent pour espérer avoir de la prospérité, avoir la paix, espérer avoir des enfants ou même le garçon espéré. Et tout ça, ce sont des actes qu'ils accomplissent, certainement en y mettant tout leur cœur. Et moi, je disais, Seigneur, tous les jours, je disais, on a la grâce de connaître le vrai Dieu. On a la grâce de connaître le Dieu qui me parle, qui vous parle. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que moi j'aurais envie de vous dire, mais est-ce que vous réalisez le bonheur que nous avons de parler à un vrai Dieu? Je crois que des fois on l'oublie parce qu'on est dans un confort, parce que c'est naturel. Mais je vous avoue que des millions de gens n'ont pas accès à ce vrai Dieu. Et quand on leur dit, mais quelles sont vos croyances? Bah, ils disent, je suis athée. Et fièrement, ils répondent, je suis athée. Et j'ai dit, mais vous croyez quand même en quelque chose. La preuve, vous faites des actes et vous croyez que ça va donner quelque chose, donc vous n'êtes pas athée. J'ai essayé de parler de Jésus à celle avec qui on a passé du temps. Après, ça ne m'appartient plus, hein. C'est au Seigneur de faire. Voilà, alors ce matin, je ne suis pas venue parler de moi, loin de là, mais des chrétiens persécutés. Et parfois, c'est vrai, le sujet fait peur. Ou bien certains se disent, oui, ça c'est une cause pour quelques personnes. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, c'est une cause qui nous touche tous et toutes, et avec laquelle on devrait marcher tous les jours, parce que ça a un sens pour ma vie, pour votre vie spirituelle. Alors, juste un bref, parce que c'est beaucoup mieux les images. On s'est bien arrangé avec la technique. Donc, on va voir un tout petit film qui fait le survol du contrebandier, n'est-ce pas? De ce qu'on fait et de notre implication aujourd'hui. Voilà.
Portes ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive.
God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how?
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile.
I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm after. That's what I want the young people to do.
Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée.
Frère André n'a pas perdu sa fougue. Vous voyez, il va avoir 89 ans cette année. Et il reste autant passionné. Ça, c'est vraiment une vidéo récente. Et il interpelle encore. Il nous interpelle encore. Aurez-vous du courage? Où sont-ils persécutés? Voilà l'image suivante. Merci beaucoup. On fait un partenariat. La suivante, merci. Voilà, ça c'est l'index mondial de la persécution. Ce sont les zones où la persécution est le plus marquée. Vous avez différentes couleurs, vous avez une carte de l'index de persécution. Juste quelques détails. Le type de persécution n'est pas toujours le même, ni parfois, des fois, on ne comprend pas très bien, ni la persécution ne sévit pas forcément dans tout le pays. Il y a des poches comme ça où la persécution est violente. On parle de la persécution marteau, celle qui englobe toute la violence physique, les tortures, le viol, la persécution par la mort, ou la persécution étau. Et là, c'est une espèce de persécution, un peu pour vous donner une meilleure image aussi, c'est peut-être la goutte d'eau, vous savez, cette goutte d'eau qui apparemment n'est pas du tout dangereuse, mais comme elle coule, elle tombe toujours là. Et en fait, cette persécution étau, ce sont les pays où, par exemple, le Bhoutan, on peut citer le Bhoutan, j'étais au Bhoutan, c'est un pays qui paraît tout à fait paisible et agréable, en fait, une petite Suisse miniature, les gens sont bien ordonnés, policés, tout va très bien. Mais en fait, c'est une persécution morale et psychologique sur votre famille si vous vous convertissez, sur le fait que vos enfants ne pourront pas aller loin dans la vie, sur le fait que vous ne pouvez pas emmener vos enfants à l'école, ou bien vous amener une malédiction sur le village parce que vous vous êtes converti. Voilà, c'est une persécution comme ça d'usure, de guerre lente. Et on ne se rend pas compte, c'est vrai, on a de la peine à saisir cette dimension, mais imaginez que tous les jours, votre voisin vienne se plaindre à votre porte en vous disant « vous faites trop de bruit, vous me dérangez » et juste ça, tout le temps, vous allez voir que ça ne vous laisse pas indifférent. Ça vient modifier quelque chose, ça vient créer une peur qui est-ce que je vais faire une erreur, est-ce que je vais vraiment faire du bruit. Donc ça, c'est une persécution étau. Et ce matin, j'aimerais juste partager avec vous ma perspective, celle que Dieu a mise, j'ai envie de dire quand même, sur mon cœur. Qu'est-ce que cette partie de l'Église, cette Église persécutée, a à faire avec ma vie à moi ici? Alors oui, c'est une, on le sait, il faut prier pour les chrétiens persécutés, mais quelle est la part active de ces chrétiens dans ma vie? Alors j'ai utilisé un triangle qu'on utilise souvent dans la relation d'aide, en disant, par exemple pour les couples, ici c'est le un des conjoints, là l'autre et Dieu en haut, chacun sa place, c'est important. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce triangle-là est tout à fait adéquat pour l'Église persécutée et nous. Il faut qu'il y ait toujours échange sur les trois pans. Et vous allez voir pourquoi. Je vais donner quand même du sens à ce que je vous partage. Et on va partir dans la parole de Dieu d'abord, n'est-ce pas? Dieu et sa parole, puisque nous sommes tous des hommes et des femmes de la parole de Dieu, et qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Alors on va partir dans le texte de Luc 7, 3 versets. Peut-être là vous allez dire, qu'est-ce qu'elle veut dire avec ça? Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Qu'est-ce que ce texte vient me dire aujourd'hui? Pourquoi ce passage est dans la Bible et à quoi peut-il me servir à moi, à ma vie aujourd'hui? Tout d'abord, cette femme, elle n'a pas de nom. Ça arrive bien souvent dans la parole de Dieu, pas de nom. Alors on la connaît comment? Par ce qu'elle fait. Et c'est pas très reluisant, la femme pécheresse. Ça devait être notoire, ça devait être connu du village. Peut-être même des environs. La femme qu'on n'a peut-être même pas envie de côtoyer. La pécheresse. Celle qu'il faut éviter. Pas avoir de rapport avec cette femme. Mais cette femme pécheresse, elle est au courant de ce que fait Jésus. Elle doit suivre tout ce qui se passe. Il y a quelque chose en elle qu'elle ne peut sûrement pas expliquer qui attire son cœur, ses pensées, ses préoccupations vers ce Jésus. Elle suit ce qu'il fait, où il va. Parce que d'aller juste manger chez le pharisien, ça ne dure pas des jours. Certainement que les dîners duraient plus de temps que les nôtres, mais certainement pas des jours. Mais elle est au courant. Et il y a quelque chose de tellement fort en elle. Elle est attirée à aller au pied de Jésus, d'aller voir ce Jésus. Mais les pharisiens ne supportent pas les femmes pécheresses. Alors elle est audacieuse, n'est-ce pas? Elle prend des risques, un peu comme frère André. Elle a du cran, elle a du courage. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne peut pas l'expliquer à ce moment de sa vie. Mais elle est poussée à aller voir Jésus. Et en plus, elle n'y va pas les mains vides. Elle part avec quelque chose de précieux. Les commentaires disent que ça vaut au moins une année de salaire. Un parfum qui coûte cher, peut-être son seul trésor financier. Aujourd'hui, on dirait peut-être son troisième pilier ou son deuxième pilier. Je ne sais pas. Mais elle part avec ça. Et elle va peut-être franchir des hommes et des femmes à la porte, ou enfin, surtout des hommes qui disent « Non, tu n'as pas le droit de rentrer ici. » On ne sait pas par quel miracle elle se retrouve au pied de Jésus. Elle se met au pied. Elle a une attitude humble. Elle sait qu'elle veut être vers ce Jésus dont on parle. Mais elle se met au pied. Parfois, nous, on aurait envie d'aller voir la personne dont on parle, mais on se mettrait devant lui en lui demandant un autographe. Ou je ne sais pas, mais il y a une attitude d'humilité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les dîners se passaient à peu près couchés sur des espèces de sofas et que les pieds étaient tournés à l'arrière, à l'opposé de la table. Elle se met derrière Jésus. Elle se met à la partie la plus humble, aux pieds, et elle pleure. Et moi, ses larmes me touchent. Elle pleure, saisie par la grâce de Dieu, saisie par une conviction profonde de son état. Elle ne sait pas certainement pourquoi, mais elle pleure parce qu'elle est devant, devant Jésus, devant sa sainteté. Elle ne peut pas l'expliquer peut-être encore à ce moment-là. Et puis elle réalise qu'elle a besoin de verser ce parfum, ce qu'il y a de précieux chez elle, ce qui dans sa maison peut-être trônait fièrement comme trophée. C'est à moi, ça m'appartient. Regardez, j'ai une richesse. Eh bien elle vient, elle le donne à Jésus. Elle est saisie par quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Et elle lui offre le meilleur. Gardez tout ce que je viens de partager avec vous en tête maintenant. Et on va partir en Érythrée. Et regardez quelles sont les similitudes qu'on peut relever entre cette histoire-là, la Bible, comme je l'ai dit dans mon triangle, et les chrétiens persécutés.
L'Érythrée, un pays d'Afrique de l'Est qui figure depuis des années sur l'index mondial de persécution de portes ouvertes. Un des pays où les chrétiens sont les plus persécutés. Certains disent de l'Érythrée qu'elle est la Corée du Nord de l'Afrique. Sous le régime totalitaire du président Afewerki, aucune organisation non enregistrée ne peut subsister. Il n'y a pas de liberté d'expression, pas d'opposition politique. Seules les églises catholiques, orthodoxes et luthériennes sont autorisées. Mais si leurs membres s'opposent aux directives, ils sont incarcérés. Les autres églises sont illégales. Elles ne peuvent pas s'enregistrer. Leurs membres sont accusés d'être des agents de l'Occident. Ce sont eux qui subissent la persécution la plus sévère.
Quand tu suis Jésus, tu es persécuté. Ta famille te laisse tomber, ton gouvernement te traque. Mais si tu renies Jésus, tu es libre.
Un jour, les policiers sont venus et m'ont ordonné de fermer l'église. Ils ont dit, il n'y a plus besoin d'église ici, ferme-la. J'ai répondu, je ne peux pas, les enfants de Dieu viennent ici pour adorer Dieu. Alors ils l'ont fermé de force et m'ont emmené en prison. Pour moi, ce n'était pas trop grave, mais quand j'ai su que ma femme enceinte était aussi en prison à cause de moi, pratiquement jusqu'à l'accouchement, ça a vraiment éprouvé ma foi. Ils m'ont dit, tu t'es toi-même mis en prison, tu as la clé dans ta main, signe ici, renie ta foi et tu es libre. C'est facile de signer un papier et de s'en aller, mais que veut dire suivre Jésus? On ne peut pas suivre Jésus uniquement quand tout va bien, on doit aussi le suivre dans les difficultés.
Une de leurs tortures favorites était de nous faire courir à pieds nus sur le sol brûlant. Ils nous tabassaient constamment. Les douleurs étaient atroces.
Les trois premières années, j'étais enfermé dans une cellule sous terre. Il n'y avait pas d'air frais pour respirer. J'ai réussi à recopier les chants de louanges et les versets bibliques dont je me souvenais. Mais un jour, ils ont trouvé mes notes. Alors ils m'ont attaché dehors sous un soleil brûlant. J'y suis resté tout un mois.
Nous avons appris une chose dans la persécution. Personne ne peut arrêter l'Évangile. Même s'il te prive de ta liberté, ta façon de vivre témoigne toujours de l'Évangile. Les problèmes, la détresse, la persécution attirent beaucoup de personnes à Christ. Malgré les difficultés, l'Évangile est toujours plus puissant. La foi chrétienne se propage.
J'ai été incarcéré avec un autre chrétien. Dieu nous a permis d'annoncer l'Évangile à 10 codétenus et à 2 gardiens. tous ont trouvé la foi en Jésus. C'était vraiment un miracle. Ils n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile auparavant. Je voudrais qu'on prie comme Étienne a prié pour ses persécuteurs. Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Priez pour l'Érythrée, pour les pasteurs, pour les autres chrétiens qui souffrent et sont persécutés. Qu'ils aient la liberté de vivre leur foi. Priez pour nos jeunes, qu'ils connaissent enfin la paix. Ils ont vu tant de guerres. Priez pour une solution aux problèmes que nous avons dans le pays. Je rêve d'une Érythrée où le peuple et ses dirigeants suivent leur sauveur, Jésus-Christ.
Alors, qu'avez-vous trouvé? On serait dans un groupe, on poserait des questions, hein, on est au culte, on répond, je réponds pour vous. Il y a une audace, un courage, ils ont été saisis. Dieu les a saisis. À tel point que ça va plus loin que juste s'engager d'une manière parfois un peu formelle ou légère. Ils vont jusqu'à donner le meilleur. Et le meilleur, c'est leur famille. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Ce ne sont pas juste des histoires, je les ai rencontrés. Au Bangladesh, par exemple, un couple, le mari avait été actif dans son village. Sachez bien que dans le village, souvent, il y a une famille de chrétiens. Une seule. Donc, peu de possibilités d'avoir des amis chrétiens, des partages chrétiens. Il faut qu'ils marchent pour le village d'à côté. Sachant que dans le Bangladesh, par exemple, que j'ai visité, j'ai été je suis montée en dehors de la capitale. C'est vraiment des routes de terre, des villages de petites cahutes en métal. On est loin de notre confort à nous. Et de se déplacer d'un village à l'autre, ça prend beaucoup de temps. Sachant aussi que les familles dans les villages vivent de leur petit lopin de terre, tout est là, leur capital, tout est là, et que tout se sait dans le village. Alors ce couple vivait dans un de ces villages, étaient les chrétiens actifs et parlaient de l'évangile. Ils avaient quand même créé une petite église, donc là où se réunissaient quelques chrétiens. Et puis évidemment, ça déplaisait aux responsables, alors ils l'ont kidnappé. Il a été très discret, il n'a rien dit de ce qu'il a vécu, mais apparemment ça n'a pas dû être facile, même si c'était court, ça a été 24 heures, parce qu'il a été à l'hôpital plusieurs semaines. Et puis quand il est ressorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recommencé. Parce que ça brûlait en lui, parce que quelque chose était tellement fort, comme cette femme pécheresse, c'était tellement fort qu'elle avait du courage, qu'elle avait de l'audace. Qu'elle ne pouvait pas rester chez elle. Ils ont du courage, ils ont de l'audace et la seule chose qui compte pour eux, c'est de continuer à partager ce qu'ils ont reçu. C'est tellement fort, leur rencontre avec Dieu, qu'ils ne peuvent pas se taire. Moi, ça m'interpelle toujours. Quand une autre famille qu'on avait rencontrée, c'était mon premier voyage missionnaire, c'était une famille de 5 enfants. Et le père avait dû quitter son village parce que tout avait été détruit dans sa maison. Et il nous racontait ce qui s'était passé. Il a dit, je me suis converti, parce que c'est des fois par le film Jésus, parfois c'est par des rêves. Ils sont interpellés. Alors il a commencé de chanter dans sa petite maison en métal, n'est-ce pas, avec pas de portes, enfin des portes, mais qui sont des feuilles de papier. Alors évidemment, le village tout entier a entendu que monsieur s'est mis à chanter des chants qui n'étaient pas les chants de la mosquée. Il n'allait plus à la mosquée. Alors les ennuis ont commencé. Systématiquement, c'est ce qui se passe. Quand quelqu'un se convertit, c'est là, comme ils l'ont dit dans le film, c'est là que les ennuis commencent. Alors il a été menacé, il y a eu des répercussions sur sa maison d'abord, des petites choses. Puis un jour, sous des prétextes évidemment complètement futiles, ils ont kidnappé et ils ont enlevé le fils de 18 ans. Alors, le papa est allé à la police, mais la police, ce sont des musulmans. Qui va attaquer un musulman? Ce n'est pas un musulman qui va s'élever contre le musulman. Donc, ce jeune de 18 ans, on n'avait pas de nouvelles. Il a fait tout ce qu'il a pu, sans espoir. Personne n'a bougé. Des mois ont passé. Ils ont dû quitter leur village, leur source de revenus aussi, il faut le savoir, comme je vous ai dit. Et ils se retrouvaient simplement hébergés dans un petit espace chez dans une famille et à faire la manche, enfin mendier son pain. Et ils nous racontaient quand même que quelques mois plus tard, subitement, ce fils est revenu. On ne sait jamais trop de détails, c'est toujours traduit, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais ce fils ne parlait plus. Donc j'ose imaginer quel sévice et quel choc il a subi. Alors c'était, comme je vous dis, mon premier voyage missionnaire et on leur a posé la question, on leur a dit, mais dans le fond, comme on l'a dit dans le film, il suffit de renier, il suffit de retourner à la mosquée pour avoir la paix. Alors on lui pose la question, mais qu'est-ce qui vous pousse à rester engagé comme ça, à garder la foi? Et je n'oublierai jamais, à ce moment-là, vraiment son visage s'est illuminé d'un sourire. Il est damné. Je sais ce que Jésus a payé pour moi. Je sais qu'il a donné sa vie pour moi. Moi, je suis prêt à donner la mienne. Puis il a fait ce geste-là pour lui. C'est pas l'histoire du fils qui m'a secoué. C'est de voir sa détermination, son courage. C'est vrai qu'il risquait beaucoup. C'est vrai qu'il avait perdu des choses. Mais il avait gardé l'essentiel, comme on a parlé et prié ce matin, chanté, vous l'avez dit, Jésus, mon essentiel. Alors, dans ce triangle, il y a trois côtés. Le troisième, c'est nous. Dans cet aller-retour, qu'est-ce que nous, on entend et qu'est-ce qu'on apprend à travers l'Église persécutée? Il y aurait beaucoup de choses à dire, comme on l'a dit ce matin, il y aurait tant de choses à vous dire. Parce que quand on lit les témoignages de l'Église persécutée avec ces yeux-là, vous allez découvrir une facette différente de lire les témoignages de l'Église persécutée. Alors moi, ce matin, j'aimerais simplement vous dire, qui est ton Jésus? Et comme on l'a dit et chanté ce matin, est-ce qu'il est ton essentiel? Mais vraiment ton essentiel? Peut-être que certains savent que j'ai été, je suis née dans l'église, c'est vrai. J'ai été à l'église toute ma vie. Mais pendant de nombreuses années, Dieu n'a pas été mon essentiel. Et j'aimerais tellement vous dire, demandez-lui vraiment. Posez-vous devant lui parce que ça change tout. Quand Jésus est son essentiel, ça change la marche. Ça change le quotidien. Ça change nos préoccupations, ça détourne nos regards de nous-mêmes, ça nous tourne vers les autres. Ça nous rend, on devient comme il est, on est transformé de jour en jour. Mais ça ne fait pas par nos propres efforts, c'est parce que lui prend plus de place. Comme dit Paul, les choses anciennes sont passées et puis les choses perdent de la couleur. Tout ce qui était important dans mon cœur a perdu de la couleur. Et l'Église persécutée vient te dire, me dire tous les jours, où est ton essentiel? Quelles sont tes préoccupations? Et ils ont salué de loin, ils ont les yeux sur l'espérance. Un autre pasteur, il m'a dit, mais on n'est que des passagers sur cette terre. Parfois, on a l'impression d'être carrément sédentaire, installé. Et puis on doit réussir notre vie. Ça c'est le martèlement de la société aujourd'hui. Et je peux me permettre de le dire parce que c'est pas moi qui le dis. Je le pensais, mais une femme, une amie du Pakistan que je vois régulièrement et qui a déjà tourné dans les églises, elle a confirmé ma pensée. Nous sommes aussi persécutés. Ça vous paraît bizarre, peut-être. Sauf que la persécution chez nous, elle est inodore, incolore. Et comme ça, subtil. C'est pas une persécution marteau, Hein, on n'a pas encore dit que vous allez perdre votre vie si vous aimez Jésus. Par contre, elle est subtile. Elle nous rend inoffensifs. Et j'aimerais vous demander, quand est-ce que vous avez parlé pour la dernière fois de votre Jésus à quelqu'un? Quand est-ce que vous avez brillé pour lui autour de vous? En fait, l'ennemi, la seule chose qu'il cherche, c'est à nous rendre inoffensifs. Alors il doit le faire par des grands moyens violents dans les pays où les gens sont tellement déterminés. Et dans notre pays, on est confortable, on peut suivre Jésus sans être dérangé. C'est vrai. J'en suis la preuve. Je l'ai fait. Mais moi, j'aimerais vraiment vous dire, l'évangile de Jésus s'est fait des nations, de toutes les nations des disciples. Et l'Église persécutée a tellement découvert qui est Jésus qu'ils ne peuvent pas se taire et qu'ils sont audacieux et qu'ils viennent apporter aux pieds de Jésus le meilleur. Voulez-vous apporter le meilleur aujourd'hui? Et dans ce triangle, vous avez vu, il y a les allers-retours. Nous, on a besoin d'eux, mais eux ont besoin de nous. Et voilà, c'est les dernières slides. On a besoin de s'engager, de prier, de ne pas oublier. Parce que comme je vous ai dit, on est harcelé par tant de préoccupations, par tant de distractions, par tant de plaisirs que le monde nous offre, qui ne sont pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Rien n'est mauvais. Mais est-ce que ça me distrait? Est-ce que ce que je fais maintenant a un but pour l'éternité? Alors s'informer, vous avez quelques magazines sur les chaises, gardez le contact avec l'Église persécutée. Et faites-le aussi pour vos enfants, parce que quand il y a un magazine à la maison, c'est comme ça que moi j'ai connu Portes Ouvertes, parce que mes parents avaient le magazine à la maison et nous en parlaient. Vous êtes des porte-parole pour vos enfants. Votre mission, c'est vos enfants, votre famille, ceux qui vous entourent. Alors restez engagés, vous pouvez passer au stand et puis signer pour vous recevoir tous les mois avec le calendrier. Être actif, prier donc, la suivante. Priez régulièrement parce qu'ils ont besoin de nous, c'est la seule chose qu'ils nous demandent. Jamais ils nous disent demandez de prier pour l'arrêt de la persécution. Ils nous disent on vous demande de prier pour nous, pour que nous puissions continuer à annoncer l'évangile. Et puis on le sait, et puis plusieurs ont déjà confirmé, une en Suisse qui vit en Suisse, une femme qui a vécu fait de la prison en Iran, elle a dit c'est plus difficile de vivre sa foi ici, maintenant dans la liberté. Quand je vous dis que c'est difficile d'éteindre sa télévision et de dire je vais prier un moment pour l'Église persécutée, pour être avec mon Jésus. Donner, écrire, voyager, diffuser. Alors vous pouvez participer au voyage de femmes, il reste encore des places, la prochaine, c'est le voyage de femme à femme, au Myanmar, si on a la prochaine slide, non? Bref, oui, un voyage femme au Myanmar, il reste des places, rencontrer des femmes, prier pour le pays, d'ailleurs je profite, n'hésitez jamais de prier pour votre région, votre village, votre rue, Dieu fait des choses incroyables là où ne peut pas aller, Dieu peut le faire, et puis être, la dernière, je crois, c'est simple, et puis oui, vous avez reçu mesdames, une lettre de nouvelles de femme à femme. C'est mon ministère, ça fait 8 ans que j'ai rejoint l'équipe de Portes Ouvertes, mais celle-ci, elle est demandante. Cette lettre de nouvelles est demandante, et les messieurs, vous pouvez aussi en avoir, parce que c'est 4 situations où vous pouvez envoyer une carte, juste une carte pour dire « on est touché par votre situation ». On prie pour vous. Simplement, vous n'avez pas besoin d'écrire des longs discours parce qu'on n'a pas... Vraiment, on ne sait pas quoi dire devant des situations aussi dramatiques. Une maman dont le mari a mis le feu sur elle et son bébé. Enfin, on comprend pas. On n'a pas les mots pour les consoler, mais on peut leur dire qu'on est à côté d'eux. Et ça fait la différence. Il y a beaucoup de témoignages qui nous parviennent d'hommes et de femmes qui ont reçu des lots de cartes et qui ont dit « on n'est pas tout seul ». N'oubliez pas, ils sont souvent isolés dans les pays. Souvent, ils pensent qu'il n'y a qu'eux tout seuls au monde. Ils sont pauvres, ils sont discriminés, ils sont méprisés. Donc il y a vraiment des défis qu'on ne connaît pas. Mais vous pouvez faire la différence. Alors je vous remercie ce matin de m'avoir accueilli, d'avoir accueilli l'Église persécutée. J'espère que ce ne sera pas pour un jour, mais que ce sera tous les jours. Une marche avec eux. Merci.